Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Lundi 27 février, bonne journée, bienvenue au 98.5 avec un avertissement de smog pour commencer la semaine. Donc pour les gens qui ont des problèmes respiratoires, ça peut être un peu plus embêtant aujourd'hui. Et c'est en vigueur donc pour le début de la journée, pour les prochaines heures. De façon globale, disons que ce matin c'est autour de moins 14, il y a un peu de brume. On prévoit autour de moins 6 degrés comme maximum et les nuages vont se pointer surtout au cours de l'après-midi. Donc, le refroidissement éolien autour de moins 18 ce matin, moins 13 pour l'après-midi en soirée, nuageux et moins 9 pour la nuit. On a beaucoup de neige pour la semaine là, et la journée en termes d'accumulation qui sera la plus, lourde, ben c'est demain avec 10 cm de neige, des vents de 20 à 40 km/h et un maximum de 2 degrés. Dans la nuit de mardi à mercredi, on prévoit des averses, soit de pluie ou encore de neige. Mercredi, 1er mars, neige intermittente. Jeudi, un peu de neige. Et vendredi, ben là, ça dépend quelle source vous avez. C'est soit encore quelques centimètres de neige ou possiblement du soleil. Donc, au total, pour cette semaine, on prévoit une vingtaine de centimètres de neige, dont la moitié qui est prévue demain. Et j'ajoute pour les gens qui surveillent ça que le changement d'heure aura lieu dans la nuit du 12 au 13 mars prochain. En fait, c'est le 12 mars, exactement à 2h du matin. Et c'est à ce moment-là qu'on va donc avancer l'horloge d'une heure, ce qui fait en sorte qu'on aura, disons, un peu plus de lumière dans nos journées. Je commence ce matin par les négociations dans le secteur public. Disons que c'est mal barré, c'est mal parti. Le premier ministre Legault a envoyé un message sur les réseaux sociaux en fin de semaine en disant « On sait que les conditions de travail sont pas bien bonnes, que la négo des conventions collectives va nous permettre, souhaitons-le, de bonifier les clauses, améliorer l'environnement de travail, mais surtout, dit-il, il est important que les syndicats affichent une plus grande flexibilité, plus de souplesse, et accepte de participer aux forums qui sont organisés par la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, des forums où on discute, entre autres, des façons d'améliorer les conditions de travail pour le personnel du réseau de la santé et les profs. Réaction immédiate des syndicats, il n'est pas question qu'on participe à ça, et les négociations servent précisément à améliorer les conditions de travail des employés de l'État. Et je comprends. Puis savez-vous quoi? Je pense que les deux ont raison, mais pas à même place. D'abord, quand M. Legault parle de rigidité syndicale, de manque de souplesse, on s'entend tous là, sur les grands principes vertueux. Pas de temps supplémentaire obligatoire, puis pas de recours aux agences privées. Ça, c'est l'objectif de tout le monde, là. Entre-temps, comment tu fais fonctionner le système? Et deuxièmement, comment tu fais pour atteindre l'objectif? Et il y a, n'en déplaise aux syndicats, beaucoup de rigidité, de clauses lourdes qui empêchent des syndiqués plus jeunes de gravir les échelons et d'avoir des conditions de travail qui ont plus d'allure. Puis il y a beaucoup de clauses de béton qui font qu'on ne peut pas nécessairement mener des expériences où c'est peut-être plus avantageux pour tout le monde. Puis là, c'est pas de remettre en question l'ancienneté en général. C'est de dire, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer? Tu sais, je vais donner l'exemple. On le voit actuellement, quelqu'un qui change de centre de service scolaire perd son ancienneté. Quelqu'un qui part à la retraite, qui voudrait revenir, bien, recommence en bas de l'échelle. C'est pas des façons bien subtiles et, alléchantes de ramener quelqu'un dans le réseau ou de faire en sorte que cette personne-là trouve des horaires de travail qui ont de l'allure. Cela étant dit, les syndicats ont raison. C'est pas dans un forum qu'on négocie des conventions collectives. On peut bien faire du placotage, on peut bien jaser d'expérience puis de projets pilotes, puis ça, on peut le faire en dehors des négociations. Mais mettez-vous à la place des centrales syndicales, on est à la table, c'est là que ça va se régler. Ça peut pas être ailleurs. Fait que le forum, c'est une belle occasion de s'exprimer, mais quand M. Legault dit « je comprends pas que les syndicats refusent de s'asseoir avec le gouvernement tous ensemble pour discuter avec nous. Les dirigeants syndicaux sont dans une logique de fermeture et ne veulent pas venir discuter autrement pour changer les choses, ce qui n'est pas vrai. Ils veulent le faire à la table de négo. Peut-être que ça marche pas à la table de négo, peut-être que c'est un dialogue de chaud, ça se peut. Mais en même temps, là, t'es pas pour modifier le rapport de force alors que t'es en pleine négo pour le renouvellement des conventions collectives. Et c'est sûr que le fric est un enjeu, mais pour beaucoup, beaucoup de profs, de gens du réseau de la santé, c'est l'environnement de travail. Pourquoi j'irais travailler dans une école primaire? Pourquoi j'irais travailler dans une salle d'urgence sur la rive sud de Montréal ou encore sur la rive nord? Qu'est-ce qui ferait que j'aurais le goût de ça comme expérience puis comme défi? Deuxième dossier important ce matin, j'appellerais ça l'avenir des villes ou de certains quartiers dans les villes. Ça fait longtemps qu'on met en lumière des problèmes de pauvreté, d'itinérance, de criminalité dans certains coins de Montréal. Et on a parlé dans les derniers mois de tout ce qui se passe dans Ville-Marie, tout ce qui se passe dans le village, tout ce qui se passe autour de la place du Puy, du parc Émilie-Gamelin. Et ce qu'on vit dans ces coins de la ville, ben c'est pas unique à Montréal. Le maire de Québec, Bruno Marchand, à qui on va parler, se prépare à diriger une mission en Finlande pour mieux comprendre comment là-bas ils ont réussi à faire face aux problèmes d'itinérance, avec tout ce que ça amène comme autre type de problème. Et la réalité, c'est qu'au Québec, les villes, les gouvernements, les organismes communautaires, les structures, tout ça mis ensemble, malheureusement, donne peu de résultats concrets. Ce matin, dans Le Devoir, on parle de résidents du quartier Ville-Marie au centre-ville qui en ont assez. Puis là, on fait bien attention. Il faut être politiquement correct. Il faut pas trop pointer du doigt. Mais c'est quoi la réalité? La réalité, c'est que le problème d'itinérance, mêlé au problème de migrants qui sont entassés dans le même secteur, il y a trop de gens en difficulté sur un petit territoire, avec des effets sur la violence, sur la criminalité, des gens qui racontent se faire sauter dessus à la sortie du métro Baudry parce qu'on veut leur enlever un sac, des gens qui disent on va faire l'épicerie à des heures où il y a moins de monde sur la rue le matin tôt parce qu'on veut pas se faire écœurer, des gens qui habitaient dans le secteur depuis 15 ans, 20 ans, qui quittent, qui déménagent. Et ça donne peu de choses de nier l'existence de ces problèmes-là. Madame Plante, la semaine dernière, l'a reconnu quand même qu'il y avait un méga problème. Et là, on prend la rondelle, fait une passe à Québec. Lionel Carman prend la passe puis il dit « Ben non, on a mis des ressources puis ça va très bien. » Mais c'est clair que pour les gens qui vivent dans Ville-Marie, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, c'est depuis quelques années, puis on a beau mettre ça sur le dos de la pandémie, là, une dégradation du tissu social. Je me souviens, l'automne dernier, j'avais un rendez-vous dans le coin, puis ça faisait longtemps que je n'étais pas allé. Là. Ça fait dur, quelque chose de rare. Là. Des zombies sur la rue, des commerces fermés, des édifices négligés, et une espèce d'atmosphère lourde dans le coin. Puis je peux très bien me mettre à la place des gens qui y habitent et qui trouve ça difficile. Donc, le maire de Québec, Bruno Marchand, sera avec nous ce matin pour parler de ça. Puis là, j'ajoute, quand on vous parle des lourdeurs, puis comment faire face à la crise du logement. Ce qu'on sait déjà, et qui est confirmé ce matin par la nouvelle ministre responsable de l'habitation, Mme France-Hélène Duranceau, qui raconte essentiellement qu'il y a des centaines de millions de dollars de disponibles pour la construction de logements sociaux et abordables, mais que les projets n'avancent pas. OK? Le cash est là. Et je me souviens d'une entrevue avec le ministre Éric Girard qui disait exactement la même chose. Pour le transport en commun, pour la question d'habitation, les budgets existent, et non seulement les budgets existent, mais probablement que les budgets seront augmentés le 21 mars, quand Québec va présenter son budget. Je vous épargne ce matin toute la structure de financement, les organismes, Accélogie, la Société d'habitation du Québec, tout ce qui existe comme bureaucratie qui entoure les programmes de subvention. Mais le constat est clair, c'est que ça prend des années et des années avant qu'on puisse commencer à construire. Et c'est pas parce que les fonds ne sont pas disponibles, c'est que la machine, la bureaucratie est d'une lourdeur et on n'arrive pas à aller de l'avant. Puis on a eu des exemples avec ce qui se passe à l'hippodrome. Pas de promoteurs intéressés. Et je dirais que pour se donner belle image, la Ville de Montréal avec M. Doré ont développé cette comptabilité créative en essayant de faire croire que la Ville, par miracle, tel David Copperfield, crée des logements qui existent déjà. Faut le faire, là, de dire nous avons sauvé des logements, donc ce sont des nouveaux logements. Nous avons des logements qui sont sur plan, donc ce sont des nouveaux logements, il faut les compter. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a plein de projets, il y a plein d'idées, mais ça n'avance pas. Alors, vous pourrez lire ça dans la presse, ce détail supplémentaire. Puisqu'on parle des villes, il y a tout un débat à Rimouski qui est assez intéressant concernant l'eau potable. Dans la plupart des villes, vous pouvez pas utiliser l'eau potable pour laver votre entrée, sauf au début du printemps, pendant une courte période de temps. Et ça, c'est quand même reconnu depuis longtemps par les villes. Si je regarde là, les dates qui existent, on parle, par exemple, pour la ville de Montréal, il y a une période qui est accordée quand même entre le 1er avril et le 15 mai. À Québec, c'est le 1er mai jusqu'au 15 juin. Puis après ça, ben c'est fini, là. Il existe d'autres moyens de nettoyer son entrée, là. On peut prendre un balai, on peut prendre un appareil qui à pression d'air. Puis là, à Rimouski, on dit c'est fini. On a des problèmes souvent de sécheresse, on a des problèmes d'approvisionnement en eau potable, fait que c'est pas vrai qu'on va gaspiller des litres d'eau. Donc, il y a une séance du conseil aujourd'hui, puis on va déposer un règlement pour interdire. Alors là, vous comprendrez qu'il y a des gens qui s'objectent. Vous venez gérer ma vie privée, puis c'est comme si vous me disiez à quelle heure je prends mon bain, puis c'est pas vrai que la ville va venir gérer tout ça. Alors, quand même, il y a beaucoup de grogne, puis Fred me le disait tantôt, il a vu ça sur les réseaux sociaux, pas mal de citoyens en colère à Rimouski contre ce règlement qui va interdire l'utilisation de l'eau potable pour laver ou nettoyer l'asphalte de son entrée de garage. Il y a un mystère qui entoure la maîtrise du français au cégep. La presse nous dit ce matin qu'en septembre 2021, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme McCann, a commandé une étude devant, je dirais, les échecs répétés de l'épreuve uniforme de français que les élèves doivent passer à la fin des études collégiales. Donc, elle voulait savoir pourquoi il y a un taux d'échec si élevé. Quelles sont les recommandations? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a donc des experts qui ont été mandatés pour publier le rapport. Or, semble-t-il que malgré les demandes d'accès à l'information, on n'est pas capable de savoir ce qui se passe. Pas capable d'avoir les résultats de l'étude. Les chercheurs impliqués n'ont pas le droit de parler parce que c'est confidentiel. C'est comme s'il y avait un grand secret au ministère de l'Enseignement supérieur sur ce qui se passe dans les cégeps. Pourquoi? On n'arrête pas là de le dire que le français est menacé, que le français peut être en péril, que on a besoin d'avoir des lois, des règlements pour solidifier le français. Mais on peut-tu savoir quelle est la lecture terrain des apprentissages de français, par exemple, au niveau collégial. Je reçois régulièrement des courriels de gens qui me disent « Mon fils, ma fille a de bonnes notes à l'école, mais a échoué. » Puis peut-être que le français, c'est pas si important que ça. Puis pourquoi est-ce qu'elle peut pas poursuivre? Pourquoi faut qu'elle recommence? Et je pense qu'on aurait peut-être intérêt, du côté de Québec, là, de permettre un peu plus de lumière dans ça. Bon, à la une du Journal de Montréal ce matin, on a, disons, fait le point sur différentes recherches. C'est la semaine de relâche. Et on revient sur les problèmes des ados au Québec qui souffrent d'anxiété, qui souffrent d'angoisse. Il y a eu des études de santé publique qui l'ont démontré. Vous avez également une prof au département de psychiatrie, chercheuse à Sainte-Justine, qui dit que les réseaux sociaux sont en partie responsables des problèmes de santé mentale, que beaucoup de jeunes n'ont pas appris à gérer leurs émotions, pas juste la colère, là, mais la tristesse, donc gérer les émotions, et que le temps passé devant les écrans, que ce soit pour jouer à des jeux ou encore sur des plateformes là, qui sont hyper populaires comme TikTok, Instagram, Snapchat, ben que tout ça fait en sorte qu'ils ont une vie extrêmement stressée. Et en plus, tout ce qui est charrié sur ces plateformes-là, en termes de valeur, ben si t'es différent, si t'es pas comme les autres, t'es rapidement étiqueté et tu peux te faire ostraciser. Alors, donc des études québécoises sur les effets nocifs des écrans. Donc, dans le Journal de Montréal, vous pourrez lire ça ce matin. Puis je reviendrai aussi tantôt sur ce recours collectif qui vise la compagnie qui est derrière le jeu Fortnite. Donc, une action collective contre le concepteur de ce jeu hyper populaire. Ce sont des parents qui ont démontré, puis là, on va le voir dans le recours, là, ça va se préciser, que il y avait une dépendance programmée. Et le fils d'un des trois demandeurs qui a reçu un diagnostic de cyberdépendance par un médecin, ce qui veut dire que l'ado était accro au jeu, qu'il avait des symptômes, migraines, douleurs au dos, des douleurs cervicales, et aussi troubles de sommeil et manque d'hygiène. Donc, on veut démontrer le lien de causalité entre le jeu conçu pour développer cette dépendance et des effets nocifs sur l'état de santé. Je vous invite à lire aussi Martin Leclerc, qui revient ce matin sur toute la saga du hockey junior majeur au Canada et particulièrement sur ce qui s'est passé à Québec en commission parlementaire et le témoignage de Gilles Courteau. Et il revient sur le cas d'un joueur qui a témoigné sur ce qu'il a vécu alors que il était dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et qui a connu des, appelons ça, séances, j'allais dire, d'humiliation, alcool, sexe, masturbation, tout ce que vous pouvez imaginer de dégueulasse. Et il raconte donc, il s'appelle Stephen Quirk, et il a vécu au moins 5 fois l'expérience de la boîte chaude, flambant nu dans une minuscule toilette de l'autobus. Il dit avoir souffert de claustrophobie durant ses sévices. Et je trouve ça intéressant, parce que Martin Leclerc conclut en disant que c'est sûr que M. Courteau bien préparé, les belles phrases, c'est pas mal mâché par des relationnistes et tout ça, là. Mais c'est comme si on enterre l'affaire. Voilà, c'est dit, puis on n'a pas d'autres cas, puis c'est du passé. Ça ne permet pas d'en savoir plus. Tout le monde a l'air comme satisfait, puis on nous promet le fameux code du vestiaire. Si vous voulez avoir une bonne synthèse, vous lirez ça. Rapidement, dans les autres nouvelles, l'aéroport de Saint-Hubert qui va avoir droit à un nouveau terminal va être annoncé ce matin. Ça coûte 200 millions. Et il était temps là de revamper l'endroit. C'est Radio-Canada qui sort ça. Et sur la scène internationale, on va revenir sur la situation en Ukraine, en Iran, avec Jean-François Lépine. Il y a peut-être moins de manifestations qu'il y a quelques mois, mais on sent que cette révolte portée par des femmes en Iran qui contestent encore des règles archaïques, cette espèce d'imposition de mesures contre les femmes. Peut-être qu'il y a moins de bruit, moins de vagues, mais il y a quand même une protestation qui s'est ancrée au sein de la population. On va y revenir. Et pour ce qui est du dossier COVID, les Américains, le département de l'énergie laisse entendre que tout ça serait attribuable. Pourquoi on a eu cette pandémie? Ben, ce serait un accident dans un laboratoire en Chine. C'est une théorie qui est véhiculée depuis longtemps. À l'époque, l'Organisation mondiale de la santé avait oublié ça. C'est pas possible, ou en tout cas très peu probable. Mais ça fait partie d'une des thèses là, que les Américains poussent. Je vous le dis, c'est loin de faire l'unanimité. Puis il y a des raisons politiques. Les Chinois veulent pas se faire dire qu'ils sont responsables à cause d'un bris dans un laboratoire d'une pandémie qui a coûté la vie à des millions de personnes. Claire qu'ils n'ont pas envie de ça. C'est plus vendable de dire, ben ça émane de la nature, puis ça s'est propagé par la suite. Alors, on verra, mais c'est pour l'instant un des scénarios. Et en parlant des Chinois, je termine là-dessus. Il y a plusieurs conseillers ou ex-conseillers du premier ministre Trudeau qui demandent la création d'une enquête publique sur les interférences de la Chine entre 2019 pardon, et 2021 dans le cadre des élections. Il y a eu plusieurs fuites des services canadiens de renseignement et de sécurité jusqu'à quel point la Chine était, disons, les deux mains dans le processus électoral. Puis je vous dirais qu'il y a un ancien conseiller de M. Trudeau qui a dit que ce que nous vivons actuellement avec la Chine, vous avez ça dans le Globe and Mail, c'est pire que la période de guerre froide, c'est pire qu'après les attentats du 11 septembre. Il y a non seulement du vol industriel, de l'espionnage, et également de la manipulation venant d'un pays autoritaire, donc manipulation de nos institutions.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Les conventions collectives du secteur public viennent à échéance à la fin du mois de mars. Et au cours du week-end, le premier ministre Legault, dans un message sur les réseaux sociaux, a parlé de la rigidité des syndicats, les a invités à participer à des forums organisés par la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Il dit, et je cite, « C'est une façon d'améliorer les conditions de travail des infirmières, des enseignants. Malheureusement, les syndicats ne veulent pas venir s'asseoir tous ensemble au forum pour discuter avec nous. Ils sont dans une logique de fermeture et ne veulent pas venir discuter autrement pour changer les choses. » La réaction syndicale a été unanime, on l'a vu. Et on a rappelé au gouvernement que ben les changements, ça se discute, ça se négocie à la table. La présidente du Conseil du Trésor est avec nous, Sonia Lebel. Maître Lebel, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, pourriez-vous m'expliquer exactement ce que vous entendez par forum?
Absolument. Donc, je veux rassurer tout le monde. Les tables de négociation, telles qu'on les connaît, fonctionnent. Mais vous savez, depuis les 50 dernières années, on fait les choses de la même façon, hein, avec une cinquantaine de tables de négociation où on discute de différents sujets avec différents syndicats qui sont concernés là par tout ça. Maintenant, moi, ce que j'essaie de faire avec les forums, c'est pas de ramener tous les sujets qui sont dans la négo traditionnelle, je peux l'appeler comme ça, aux tables, ou dans les forums, c'est de prendre quelques sujets qui sont prioritaires quand on parle de l'équipe soins en matière de santé, à titre d'exemple, et l'équipe classe en matière d'éducation. Et dans ces sujets précis-là, qui sont prioritaires pour nous et qui interpellent tous les syndicats, là, c'est des sujets qui sont communs à tous, là, naturellement. Mais moi, je dis, écoutez, c'est complémentaire. C'est un lieu de négociation. Là. Je veux qu'on soit bien clair. Là. On va négocier. Moi, je suis pour les négociations formelles, mais j'essaie de trouver une façon d'accélérer les choses en assoyant tout le monde autour de la même table quand ça les concerne tous pour être capable d'avancer plus rapidement. Parce que la négociation traditionnelle, là, c'est lourd, c'est long, c'est beaucoup de tables. Tu sais, en santé, M. Arcand, c'est 20 tables de négociation. Ça veut dire, moi, que pour discuter du même sujet, là, faut, je me promène à 20 tables différentes. Puis chaque fois que quelqu'un a un commentaire sur ce sujet-là commun, il faut que je retourne aux 20 tables. Vous imaginez que c'est très long. Alors moi, je dis, dans quelques sujets, assoyons-nous tous en même temps, ça nous concerne tous, et de toute façon, les solutions vont devoir être communes à la fin du parcours.
Mais je comprends ce que vous dites, mais en même temps, là, c'est que pour que ça soit fait, on peut pas en discuter puis trouver une formule. Il va falloir retourner à ces 20 tables-là pour les inclure à la convention collective?
Mais non, parce que ces gens-là vont être portables. Non, parce que sur les sujets précis dont je vous parle, je ramène tous ces sujets-là qui seraient distribués aux 20 tables à une table commune. Et c'est pas contre la loi 37. La loi 37, elle définit pas le nombre de tables de négociation. Elle dit simplement, il y a des matières qui sont nationales, puis il y a des matières qui sont locales. Et moi, je parle de matières comme la rémunération. Je parle de matières comme l'organisation des fonctions. Qui va aider à la classe? Quelles vont être leurs fonctions, ces gens-là? Ça, c'est national et c'est commun. Comme à l'ensemble des... Et là, c'est pour ça. Moi, sur ces sujets-là, et pas l'ensemble de la négo...
Mais pourquoi vous appelez ça un forum? C'est une table de négo que vous voulez faire en parallèle?
Oui, ben, c'est un lieu de négociation. C'est parce que, compte tenu... On voulait vraiment que les syndicats comprennent, c'est le terme pour les syndicats, comprennent qu'on crée un lieu à côté, mais c'est un lieu de négociation. On peut appeler ça une table centrale ajoutée, là, qui s'ajoute au... Vous avez vu, je pense, il y a quelques mois de ça, on présentait l'organigramme des négociations au Québec, là, qui avait l'air d'une pente de ski un peu épileptique, là. Mais c'est de ramener ces sujets-là à une table. Mais c'est un lieu de négociation, là. Faut qu'on se comprenne. C'est des propositions qui sont faites par le Trésor et par le gouvernement qui devront être respectées. Ce sont des mandats clairs. Et là, on vient de mettre 700 millions sur la table. Au minimum, là, je demanderais aux syndicats d'arrêter là, de discuter là, de table potable, puis de me répondre sur mes propositions qui sont sérieuses, qui sont officielles, qui sont faites par le président du Conseil du Trésor.
OK, mais on va prendre des exemples concrets. OK? Vous dites,
oui,
on appelle absolument. Ça une table centrale où on invite tous les syndicats à venir s'asseoir, par exemple, pour ce qui est des, je pense, au niveau de l'éducation, là, d'intégrer des employés de services de garde comme soutien aux profs dans les classes. C'en est un, ça, des projets?
Absolument.
OK.
Oui, absolument. On a déjà, d'ailleurs, un projet pilote, et ça, c'en est un. Et à titre d'exemple, là, la FAE représente que des enseignants. La CSQ représente des enseignants et les gens, justement, qui viendraient donner du soutien. La CSN, la FIC, a certains de ses membres qui sont des gens qui sont concernés par cette proposition-là. Ben, moi, pour être capable de définir qu'est-ce que les enseignants ont besoin comme soutien dans la classe, quel genre de fonction vont faire ces employés de soutien-là, ben, ça me prend tous les gens concernés autour de la table. Donc, j'ai invité la FAE, la CSQ, la CSN et la FIC, la FPQ, à venir négocier de ce sujet-là ensemble.
Mais là, Madame Lebel, ça suppose qu'ils s'entendent ensemble.
Ben, il va falloir qu'ils s'entendent éventuellement, M. Arcan, parce que on va atterrir à la même place. C'est pas vrai que l'employé de soutien va venir de faire une chose différente partout au Québec, dans sa définition de tâche puis dans son salaire. Après ça, on peut parler des spécificités régionales. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais quand on parle de ce principe-là d'aide à la classe puis du besoin des enseignants, ben, j'aurais pas deux façons de faire avec des enseignants différents parce que j'ai deux syndicats. J'aurais pas quatre façons de faire différentes pour l'employé de soutien parce que j'ai quatre syndicats. On va finir par atterrir à la même place. Mais moi, tout ce que je veux, M. Arcan, c'est de trouver une façon plus efficace d'arriver à notre but. J'essaie pas de contourner quoi que ce soit, là. Je mets des solutions sur la table, puis à court terme, c'est la population qui attend. Donc, venez discuter de ces sujets-là. Venez au moins essayer d'en parler avec moi. Après ça, vous pourrez faire un diagnostic si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Mais on essaie même pas au moment où on se parle. Et moi, je propose, et pour l'instant, ben, je me parle à moi-même.
OK. Non, ça, je comprends. Mais exemple, dans le domaine de la santé...
Je m'entends bien avec moi-même, honnêtement.
Il n'y a pas de grand débat avec vous-même, c'est correct, ça. Mais vous dites les infirmières, par exemple, qui travaillent à temps plein, le temps complet, pourraient avoir plus de congés.
Oui.
Ça ne veut pas dire que les syndicats sont d'accord avec ça. Peut-être que l'ensemble des membres vont dire non, ça dépend de l'ancienneté, puis ça dépend de ce qui est prévu. Pourquoi est-ce qu'on leur donnerait plus de congés?
Oui, mais c'est ça une négociation, M. Arcan. Là, ce qu'on constate sur le terrain, puis on l'a vu là avec la région de la Mauricie, où il y a eu en fin de semaine un débat, on l'a vu avec HMR. C'est toujours la question du temps supplémentaire obligatoire, et c'est souvent les infirmières à temps complet qui sont obligées, à 4h-10, de dire, hey, toi, tu restes, parce qu'il y en a une qui a téléphoné, qui peut pas faire le chiffre de soir, de nuit, ou de fin de semaine, qui sont toujours les postes de travail les plus difficiles à combler. parler. Alors moi, pour être capable d'éliminer le TSO, il faut que je sois capable de te parler d'organisation du travail. J'ai 3 syndicats concernés par les gens qui sont touchés par ça. Ben, venez me voir. Moi, je fais une proposition qui devra, au final, être commune à tous. Ben, on en discutera de ma proposition si elle ne fait pas leur affaire, mais j'offre quand même 7% d'augmentation à ces infirmières-là, 7% d'impact sur leur retraite, ce sont des femmes. C'est quand même 65% des infirmières que ça concerne, et ça va leur donner la prévisibilité et à terme, ne pas être appelées à 4h-10 pour faire du TSO puis désorganiser leur famille puis leur travail. Maintenant, on peut ne pas être en accord avec certains détails de la proposition, mais venez en discuter, elle est sérieuse. Elle est peut-être pas finale parce qu'on va discuter, mais on va finir, je vous le garantis, d'atterrir à la même place pour tout le monde. Mais on va en discuter avec tout le monde, puis on va dégager une piste d'atterrissage puis une entente là-dedans. Mais moi, je mets sur la table un principe qui est fort, avec des montants qui sont forts. Maintenant, ben, j'ai personne jusqu'à présent qui a répondu à mes propositions. Puis honnêtement, elles sont pas farfelues, monsieur Arcand.
Non, je dis pas que c'est farfelu, mais c'est très habile parce que vous les forcez à se commettre tous ensemble autour de la même table sur des sujets qui impliquent, avouons-le, un petit brassage d'idées dans les conventions collectives béton. Puis je vous donne un exemple bien simple.
Il faut brasser des idées au moment où on est rendu. En 2023, il faut les brasser, les idées.
Non, mais c'est correct. Mais eux autres, leur réaction, là, c'est de dire, attends un peu, là, ça c'est un piège. On voit si on va aller s'asseoir. On n'a pas tous le même point de vue. Puis là, on va aller s'asseoir, puis on va passer pour ceux qui, ou celles qui bloquent des réformes importantes comme celles que vous proposez, qui viennent, veut pas, là, changer la logique syndicale des dernières années.
Mais là, écoutez, M. Arcand, s'ils font pas partie de la solution, qui va en faire partie? Là, je pose la question à l'ensemble de la population. Puis de toute façon, là, si on le fait sur le mode traditionnel, c'est les mêmes propositions, mais là, ils vont tous se regarder en chien de faïence et dire lequel va passer la ligne en premier. Je veux dire, à un moment donné, là, ils sont tous concernés, leurs membres sont tous concernés au même niveau. L'infirmière qui fait du temps supplémentaire obligatoire présentement, qu'elle soit là, à la FIC, à la CSQ ou à la CSN, elle vit les mêmes difficultés, elle vit les mêmes réalités, puis elle vit les mêmes problèmes. Et le patient qui attend présentement qu'on trouve une solution tous ensemble, là, il vit les mêmes problèmes. C'est une responsabilité partagée. Maintenant, moi, dans la dernière négociation, j'ai dit que je ferais des différenciés. J'ai dit que je mettrais l'accent sur les infirmières et les enseignants. Puis au final, c'est ce que j'ai fait. Puis on a qualifié ça, ces ententes-là, d'historiques. Je leur dis, écoutez, je veux trouver des solutions avec vous, mais là, ils doivent faire partie de la solution. Je veux bien qu'on voit des pièges partout, là. Mais à un moment donné,
mais moi, ce que j'ai entendu,
de voir des pièges partout, personne n'avance.
Ouais, mais moi, ce que j'entends depuis la fin de semaine, c'est qu'ils sont en mode solution, qu'ils ont des idées, mais que pour eux, ça passe par la table de la négociation.
Ben, ce sont des tables de négociation. Alors, déposez vos idées, puis on en discutera. J'ai même pas eu de réponse à cette proposition-là. Vous savez, c'est... je vais me permettre de faire une citation française, francophone. « You're damn if you do, you're damn if you don't. Hein? » Quand on ne fait rien au gouvernement, puis qu'on est enchâssé dans nos vieilles façons de faire, on nous dit que le gouvernement est rigide, qu'on n'avance pas, qu'on fait pas de proposition. Ben là, je prends le taureau par les cornes, puis je dis, gardez, là, j'innove, j'essaie de brasser un peu les choses, c'est vrai, mais les brasser avec eux, je leur fais des propositions et là, on me dit que je brasse trop. Ben, à un moment donné, venez vous asseoir avec moi. Ça va bien aller, je suis pas méchante, je mords pas, puis on va trouver des solutions, M. Arcand. Mais là, il faut pas s'installer dans un coin, regarder le train passer, puis se contenter de dire que ça change les paradigmes. Ben, il faut qu'on trouve une solution, là. Il faut qu'on trouve des solutions, parce que pendant ce temps-là, je vous le dis, là, c'est la population qui attend, puis nous regarde, nous et les syndicats, en disant, hey, parlez-vous, là, ça va bien aller.
Je comprends, mais on ne parle pas de petits détails. Je vous donne des exemples. Je ne sais même pas si ça fait partie des enjeux, mais en réalité, un prof, par exemple, qui change de centre de service scolaire pour n'importe quelle raison, là, valable, qui continue d'enseigner, là, qui change juste d'endroit, va perdre son ancienneté. Ben, c'est un débat, ça. Les jeunes infirmières, par exemple, qui arrivent et qui ont les mauvais quarts de travail, des gens qui quittent puis qui reviennent puis qui repartent au bas de l'échelle, on vient en faisant, en remettant ça en question, veut pas, je m'excuse, mais ça s'appelle poigner le syndicat de front dans ses valeurs qu'il défend depuis Mathusalem.
Ben, c'est un débat, justement. Pourquoi on perd des enseignants entre 0 et 5 ans? pas un débat, mais il faut l'avoir, ce débat-là. On veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, M. Arcan, puis mettre des sacro-saints principes à la poubelle, mais il y a moyen de regarder ça avec franchise, puis de dire, parfait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut trouver une façon, tout en respectant les principes, d'avoir un peu plus de souplesse et d'ouverture? Parce qu'on les perd, ces jeunes enseignants-là. On les perd, pourquoi? Parce que souvent, ils se retrouvent dans des centres de services ou dans des classes beaucoup plus difficiles. On va leur donner de l'aide. On veut, mais les enseignants aussi qui ont de l'ancienneté, c'est de l'expérience. On a offert du mentorat à la dernière négociation et ça a bien été reçu. Mais on peut retrouver encore une façon de valoriser les enseignants d'expérience tout en n'étant pas obligés de confiner systématiquement les jeunes enseignants dans les postes les plus difficiles alors qu'ils sont en début de carrière. Ce qui ne veut pas dire de mettre à la poubelle l'ancienneté, mais écoutez, moi, là, tout seul dans mon bureau, je peux même faire des scénarios, mais venez en parler. Puis c'est pour ça que le forum est important, parce qu'il vient, il va venir centraliser des principes qui sont communs à tout le monde. Mais je ne vais pas de toute façon les déchirer, ces principes-là. J'ai besoin de l'accord des syndicats. Mmh. Mais il faut, par contre, M. Arcan, en 2023, je m'excuse, là, mais il faut arrêter de prendre des sacro-saints paradigmes et de les mettre dans un coffre-fort en disant on ne touchera jamais à ça. À tout le moins refuser d'en parler, parce que vous savez quoi? On va continuer à frapper le même mur, négo après négo, qu'on frappe depuis 50 ans. Et moi, je veux simplement faire partie de la solution.
OK, mais vous savez, là, tout le monde s'entend. Tout le monde est contre le TSO. Tout le monde est contre le recours aux agences privées.
Oui, mais il faut trouver des solutions. Mais encore faut-il trouver une solution?
Mais oui, mais tout le monde est en mode solution. Les syndicats me disent qu'ils ont des belles solutions. On sait pas trop encore quoi. Vous me dites...
Une solution que j'entends entre les branches, c'est de fermer des services à court terme. Je pense pas que c'est une solution que j'entends entre les branches.
Mais là, je comprends que c'est pas un forum. C'est pas un forum, c'est une table.
C'est pas un salon de thé où on va discuter de grands principes pendant des mois et des mois. C'est un okay. endroit où on va négocier puis qui va ressortir des solutions puis qu'après ça, si je dois faire des mandats très précis pour que chaque couleur locale et spécifique au syndicat soit respectée dans d'autres détails, ça va être fait. Mais c'est de la négociation.
Parfait. Merci, Maître Lebel. Bonne journée.
Merci, bonne journée à tous.
Sonia Lebel est la présidente du Conseil du Trésor, également ministre responsable de l'administration gouvernementale. Depuis plusieurs semaines, on parle des problèmes d'itinérance. La présence, par exemple, dans l'arrondissement Ville-Marie, le centre-ville, une partie du centre-ville de Montréal. Donc, au parc Émilie-Gamelin, beaucoup d'itinérants, les migrants qui sont confinés vers la place du Puy, des commerces qui ferment, des citoyens qui se disent inquiets. Encore ce matin, dans Le Devoir, quand on parle du village, beaucoup de gens ont décidé de quitter parce que, disent-ils, ils se sentent plus en sécurité, des commerces qui ont été fermés, des bâtiments mal entretenus. Autrement dit, c'est un problème majeur. La mairesse, Mme Plante, parlait la semaine dernière d'une surreprésentation de gens en difficulté sur un territoire qui est quand même pas si grand que ça. On parle de Montréal, mais Québec connaît aussi des problèmes d'itinérance. D'autres villes à travers le Québec continuent de faire face à cette réalité. Et le maire de Québec, Bruno Marchand, se prépare à diriger une mission, ou en tout cas participer à une mission à Helsinki et Copenhague, justement pour voir comment dans ces deux villes on a pu faire face au problème de l'itinérance. Il est avec nous ce matin. Monsieur Marchand, bonjour.
Bon début de semaine, Monsieur Arcan.
Parlez-moi d'abord en quelques mots du phénomène de l'itinérance à Québec. À Montréal, là, on a tous, les auditeurs, là, un visage clair, un portrait clair de ce que ça représente, mais à Québec, ça se traduit comment?
Ben, au dernier décompte, il y a quelques années, on parle de 600 personnes itinérantes autour d'eux, là, parce qu'on sait qu'un décompte, c'est pas parfait. On pense que le phénomène est en hausse pour des raisons qui s'expliquent et que tout le monde connaît, la pandémie, les difficultés, la santé mentale, les difficultés de logement, les coûts. Et ce qu'on voit, c'est la même chose qu'à Montréal, c'est que ça s'étend dans des quartiers où on n'en voyait pas avant. Et comme vous le disiez d'entrée de jeu, ben il y a des citoyens inquiets, puis on peut pas juste leur dire, ben voyons, si on était des humains normaux, on accepterait qu'il y a des gens qui vivent en difficulté. On a une conciliation à faire dans les villes, et c'est pas vrai que l'itinérance est une fatalité. Puis ça, moi, je refuse ça.
Madame Plante disait la semaine dernière, on a par exemple des sans-abri qui sont au parc Émilie-Gamelin, c'est dans un coin de la ville. À côté, le fédéral arrive avec les migrants. Donc, c'est un mix de populations. À travers ça, vous avez des CIUSSS, des CIS qui interviennent. Vous avez la police qui relève la ville. Donc, il y a un paquet d'organismes, il y a un paquet d'intervenants qui jouent là-dedans, dans la même pièce. Ce qui fait que on dirait qu'on se passe la rondelle plus qu'autre chose.
Oui, puis moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, puis c'est un des problèmes qu'on a en itinérance. Puis vous pourriez rajouter les groupes communautaires là-dedans. Tout exact. Le monde est bien intentionné. Là. Moi, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui arrive mal intentionné. Mais tout le monde a sa chance gardée. Tout le monde voit sa propre mission. Et il y a personne qui est capable de dire, OK, on va se mettre ensemble, là, puis c'est la mission, c'est la trajectoire de la personne itinérante dans un lieu, dans un endroit qu'on va regarder. Alors, qu'est-ce que ça fait? Bien, le CIUSSS fait ses choses. La ville fait ses choses. La police fait autant qu'elle peut. Rajouter des services gouvernementaux comme Revenu Québec ou autres, comme des services liés aux personnes en cité sociale. Et il y a personne, ou on pourrait même rajouter les centres jeunesse là-dedans, on n'est pas capable de bien se concerter et faire en sorte qu'on regarde une situation de façon beaucoup plus élevée. Puis moi, c'est pour ça que j'exige que, comme élu, là, puis au sens large, puis j'inclus des gens non élus comme les gens des CIUSSS et autres, on soit capable d'exprimer une volonté politique très claire, puis dire, on va accepter de se dire qu'on va se mettre la tête sur le bio. Puis je vais vous donner un exemple. À Helsinki, en 1970, il y avait plus de 3660 places d'hébergement pour les personnes itinérantes. En 2011, il en restait 171. Fait que c'est pas vrai que c'est une fatalité. C'est pas vrai que c'est quelque chose avec lequel, oui, il y a une conjoncture, on s'entend tous, là. On n'est pas plus fort que la conjoncture. Cependant, le jour où il y a une volonté politique, le jour où les organisations que vous avez nommées, là, arrêtent de travailler un peu en soi et pour soi, puis décident de travailler pour la personne au centre, là, ben regardez ce que ça donne dans des villes dans le monde qui réussissent, malgré le contexte, malgré la conjoncture, à réduire leur itinérance.
OK, mais donnez-moi des exemples, des mesures concrètes que Helsinki a pu prendre, justement, pour amener, disons, une solution efficace global.
Bien, d'abord, c'est un soutien au logement, là, c'est un soutien intensif au logement, de façon à faire en sorte que ces gens qui vivent dans la rue, dans des conditions pas faciles, puissent être accompagnés. Alors, il y a une pénurie de logements, on en a parlé, mais il existe aussi une pénurie de gens pour faire le pont, pour les accompagner. Nos groupes communautaires sont sous-financés. Alors, il existe une pénurie pour faire en sorte que prendre quelqu'un dans la rue puis dire, on va te ramener de la dignité, on va t'aider à retrouver un confort, à retrouver une contribution à la société. Puis pour certaines personnes, c'est vrai que ça sera pas le travail. C'est vrai que là-dedans, il y a des gens qui seront pas capables de travailler 3, 4, 5 jours semaine. Mais oui, il y en a qui le peuvent. On en a des histoires à Québec d'un programme qui s'appelle Porte-clés, qui a réussi à ramener des gens qui étaient dans la rue et à faire en sorte qu'on puisse, à travers le logement, à travers l'accompagnement, à travers un paquet de ressources, là, c'est holistique, on travaille la personne dans son ensemble, là, on est capable de redonner à cette personne-là du pouvoir sur elle-même, à refonctionner en société, à retrouver une place pour vivre dignement et à elle aussi mettre sa contribution. Alors à travers, oui, le soutien au logement, oui, l'accompagnement des travailleurs de rue, une capacité de travailler ensemble, autant Service Québec que les CIUSSS, que les villes. Présentement au Québec, là, le travail entre les CIUSSS et les villes, il va de très, très bon à très, très, très mauvais parce qu'on se parle pas. C'est pas normal, là.
Mais là, vous me parlez de logement. Je vous donne l'exemple de ce matin. La nouvelle ministre de l'Habitation, Mme Duranceau, nous explique qu'il y a des centaines de millions qui sont disponibles. L'argent est là pour bâtir des logements sociaux et abordables, mais que c'est gelé dans une structure qui n'avance pas.
Oui, ben ça c'est l'argument du gouvernement qui dit on a mis de l'argent puis les portes ne sont pas construites.
Ouais.
Il y a du vrai, mais il faut rajouter des bémols, là. Pour les municipalités présentement, si vous soutenez une porte avec l'inflation à 30% de ce qu'elle vaut, ben c'est sûr que les villes n'ont pas les moyens de construire cette porte-là. Si on trouve pas des solutions pour arriver au résultat, puis moi c'est ce que en itinérance, c'est ce que je demande. Je demande ça du gouvernement du Québec, je demande ça des villes aussi. Il faut arrêter de travailler avec un objectif de moyens. Là, présentement, on se dit, oh, on a mis des moyens en place, on a mis des travailleurs de rue, on a ouvert un peu de logement social, on a soutenu un peu le communautaire. Puis après ça, on se dit, ben voyez, on a mis des moyens en place, regardez comment on est de bonne foi. Moi, la bonne foi, je la mesure pas ces moyens qu'on met en place, je la mesure ces résultats qu'on atteint. Puis quand je dis ça, souvent, les groupes communautaires vont dire, ouais, mais là, on peut pas avoir entré dans un système capitaliste, puis vite, faut le sortir, puis à partir du moment où on a pris un itinérant de la rue, puis on l'a mis dans une porte, on est content, puis on a un résultat. C'est pas ce résultat-là que je souhaite, là. C'est le résultat au final où quelqu'un est sorti de la rue, mais a retrouvé de la dignité, a retrouvé de la propriété sur lui-même, a retrouvé du pouvoir pour agir. Et c'est ça notre seul indicateur. Et c'est pour ça, pour moi, ça commence par des politiciens du Québec, des municipalités, mais aussi des gens qui sont pas des politiciens, mais qui ont à voir là-dedans, les gens des CIS et des CIUSSS, qui s'engagent, puis qui se disent, c'est pas vrai qu'on va regarder d'autres villes dans le monde descendre leur itinérance, puis nous se dire, vous savez, c'est compliqué, l'itinérance, c'est une fatalité, hein? Il y a un contexte, il y a la pandémie, on peut rien y faire. C'est pas vrai, mais on a peur de s'engager. Faut arrêter d'avoir peur, faut se mettre la tête sur le bio, puis arrêter de se dire, on a mis des moyens en place, c'est viser des résultats humains, pour prendre soin de gens qui présentement en arrachent et des citoyens qui sont inquiets et qui ont raison d'être inquiets.
Mais en même temps, ça veut dire brasser pas mal la bureaucratie. Je regardais Calgary qui dit qu'il faut être capable, quand on veut construire des logements, de faire preuve de souplesse. Je vous dis pas qu'il n'y a pas des enjeux financiers, mais c'est vrai que des fois, tu dis, on annonce des projets, puis ça prend 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans à voir le jour. Il y a quelque chose qui marche pas, là.
Moi, j'ai dit à la ministre, si vous nous donnez le défi à travers les structures actuelles que vous appuyez, il y a un programme qui s'appelle Axélogie, là, peu importe comment ça s'appelle, de sortir de terre là, des nouveaux logements, puis de faire en sorte qu'on puisse, à travers les fonds que vous allez nous donner, là, être rapide. Les municipalités vont répondre présentes, Québec va répondre présent. Parce que je pense qu'avec, je fais référence à la situation de Québec que je connais bien, là, on a des groupes techniques, là, c'est les gens qui, les villes ne construisent pas ces logements-là et ne les gèrent pas, là, elles confient ça, entre autres, à des groupes techniques qui sont impeccables, qui sont extraordinaires. Est-ce qu'on peut accélérer les choses? Certainement. Mais c'est compliqué. Les processus sont compliqués pour les municipalités. L'argent n'est pas toujours au rendez-vous en fonction de ce que ça coûte vraiment. Si on est capable de se dire, voici qu'est-ce que ça va prendre pour sortir des logements de terre, mais pas juste des logements, là. Accueillir une personne en état de vulnérabilité, c'est pas juste dire, on va y mettre une porte, 4 murs, puis un toit, puis elle va être correcte. C'est l'accompagner, c'est avoir du soutien psychosocial, c'est avoir du soutien à la toxicomanie, parce qu'on sait que ça fait partie de ces enjeux-là. C'est avoir donner réaccès aux soins de santé, parce que même si les soins de santé existent, il y a des gens marginalisés qui y vont plus parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont perdu confiance. C'est trouver des façons complètement différentes de réintégrer ces gens-là dans le système, de leur créer des ponts. Si on veut, comme Québec, là, on est capable. Si on en fait un projet de société, on est capable. Mais vous avez raison de dire, c'est compliqué pour les municipalités, et je pense qu'on peut faire mieux si notre objectif, c'est des résultats, et non pas juste de se dire, on va mettre des moyens en place.
Monsieur Marchand, merci, bonne journée.
Merci,
au revoir. Bruno Marchand est le maire de Québec et vous lirez dans Le Devoir ce matin ces témoignages des gens qui habitent dans ce qu'on appelle Ville-Marie, là, et j'englobe le village, et qui ont vu leur vie changer. Puis c'est vrai que depuis la pandémie, c'est un quartier complètement transformé. Il y a des zombies sur la rue, il y a des bâtiments abandonnés, des commerces qui ont fermé, puis le sentiment d'angoisse puis d'insécurité et réel. Des gens qui racontent métro Baudry, ils se font bousculer, puis revente de drogue. Et cette criminalité-là existe. Et la mairesse de Montréal, quand elle dit il y a comme une surreprésentation du monde qui ont des problèmes sur un territoire petit, ben c'est quand même assez vrai. Puis vous voyez la situation à Québec. Autre échelle, mais même réalité.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Une décision importante qui a été rendue par le juge Cournoyer en appel concernant l'action collective contre le concepteur du fameux jeu vidéo Fortnite. On a beaucoup parlé de la dépendance des gens qui deviennent accros à ce jeu avec des impacts réels sur leur état de santé. Maître Jean-Philippe Caron, qui est avocat au cabinet Calex et qui pilote l'action collective contre Fortnite. Maître Caron, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
On s'est parlé à quelques reprises, mais je pense que c'est important de rappeler aux gens les enjeux, là. Il y a combien de demandeurs là dans cette action collective, d'abord?
À ce jour, on a eu à peu près 350 parents qui nous ont contactés. Mais c'est important de dire, évidemment, que toutes les gens qui ont subi que leurs enfants ont subi des effets nocifs et qui répondent à la description du groupe qui a été autorisé sont automatiquement inclus. Donc, selon nous, il y en a plusieurs autres qui nous ont pas encore contactés. et qui vont peut-être le faire le plus tard dans le processus. À tout événement, il y a deux classes qui ont été autorisées. Un qui couvre les enfants qui ont fait des achats intégrés dans le jeu de V-Box au niveau de la lésion, c'est-à-dire l'exploitation d'une partie par l'autre ou une disproportion dans les proportions dans les obligations des parties. Et le premier groupe lui traite des gens qui ont vécu des répercussions dommageables sur leur divers sphères de leur vie, que ce soit leurs activités personnelles, familiales, sociales, des baisses de notes à l'école, des problèmes d'hygiène, de l'agressivité. Donc, ce sont les deux volets là, qui ont été autorisés dans cette action collective.
OK. Expliquons aux auditeurs là, comment on va faire le lien ou comment vous allez démontrer que un jeune de 15 ans qui joue tout le temps, qui dort pas la nuit, qui a des problèmes d'hygiène, qui a des problèmes physiques même, que ça, là, c'est relié au jeu, que c'est même l'intention du créateur de créer la dépendance.
C'est important de dire que le recours qui a été approuvé, c'est un recours qui est en responsabilité du fabricant et qui traite des dangers et des risques inhérents à l'utilisation d'un produit. Donc, nous, ce qu'il faut prouver au fond, c'est que le jeu a un défaut de sécurité et qu'il peut causer des problèmes de santé à ses utilisateurs et que la compagnie Fortnite le savait ou se devait de le savoir en vertu des présomptions légales qui s'appliquent à ce type de recours. Un peu le même principe qui s'est appliqué dans le tabac. Là, nos questions communes sont très similaires aux questions qui ont été débattues dans le cadre du dossier du tabac.
Mais dans le cas du tabac, on a démontré avec le dépôt, on le sait, là, des études, que la dépendance était programmée, était non seulement connue, là, mais était souhaitée. Est-ce que vous prétendez que Fortnite savait pertinemment ce qu'il faisait et que la façon dont le jeu est conçu, présenté, pour une certaine partie des joueurs, des consommateurs, ça crée une dépendance?
Effectivement, M. Arcan, il faut dire que le jeu a été développé par une équipe de psychologues. Et que le design du jeu, donc la manière dont le jeu a été conçu, incite l'utilisateur à passer le plus de temps possible dans le dit jeu, ce qui évidemment fait en sorte que les revenus d'Epix sont gonflés en conséquence. Ici, on est dans l'industrie de l'attention et le but de n'importe quelle personne qui développe un produit, c'est que son utilisateur passe le plus de temps possible dans le produit pour en tirer un gain financier. Ce qu'on va être capable de démontrer ici, c'est que, ou ce qu'on entend démontrer dans le cadre de l'action collective, c'est que au moment où l'information par rapport aux risques et dangers est devenue publique, là, lorsque l'OMS a classifié la maladie du jeu vidéo, Epic Games, plutôt que de prendre des mesures proactives à travers un lobby dans lequel elle était membre, a fait une campagne en disant non, nos jeux sont engageants, ils ne sont pas addictifs. Je vous dirais que la ligne entre l'addiction et le volet engageant est peut-être difficile à établir parfois. Par contre, pour moi, ici, on est vraiment dans une situation où la ligne a été franchie. Entre autres, il y a Celia Oden, qui est la psychologue qui est derrière le développement du jeu, qui a récemment lancé une initiative pour le jeu éthique, où elle traite de la nécessité d'obtenir un consentement suffisant. Donc, c'est un peu la comparable qu'on peut prendre ici, à savoir que le jeu a été désigné d'une manière à ce que souvent, on n'a pas nécessairement obtenu un consentement libre et éclairé par rapport tant aux achats dans le jeu qu'au fait qu'on continue à jouer en raison de ce qu'on appelle des dark patterns. Et Epic Games, suite au jugement d'autorisation le 19 décembre dernier, a été accepté de payer une amende de 520 millions de dollars US de la Federal Trade Commission aux États-Unis, notamment en raison des dark patterns là, qui sont présents dans le jeu.
Vous l'avez mentionné pour les effets physiques, là, les conséquences sur la santé, mais vous avez eu, puis là, vous venez de l'effleurer, là, sur les achats intégrés, c'est la même chose, c'est la même logique de faire en sorte qu'on soit comme attiré par les achats, puis que l'achat, c'est une forme de vente sous pression, là.
Ben, c'est plus que ça, M. Arcan. Souvent, si on lit le rapport de la Federal Trade Commission, on comprend qu'il y a eu beaucoup d'achats qui ont été faits par inadvertance, donc où on ne voulait pas nécessairement acheter, mais de la manière que le design d'achat était conçu, ben on en arrivait à acheter sans nécessairement s'en rendre compte. Et par la suite, la tentative d'obtenir un refund était une aventure très difficile qui menait à rien. Donc, la compagnie avait mis en place des mécanismes. Donc, c'est un peu dans cette orientation-là qu'on veut aller. Et en plus d'un autre élément qui est important par rapport à cet élément-là, c'est le fait souvent que la disproportion dans les moyens d'un jeune. Hein, on a un jeune ici qui a dépensé 6 000 $. Et à cour d'appel, lundi dernier, lorsqu'on a eu l'audition, le juge Cournoyer a itéré aux avocats qui représentaient EPIC que lui, il n'y avait aucun de ses 4 enfants qui avait jamais fait une dépense de 6 000 $ sur quoi que ce soit. Donc, c'était pas une connaissance de tous du tribunal, c'était simplement du gros bon sens.
Merci beaucoup, Maître Caron. Bonne journée.
Merci,
au revoir. Maître Jean-Philippe Caron, avocat au cabinet Calex, donc qui pilote l'action collective contre le jeu Fortnite.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Parlons de l'Ukraine. Jean-François Lépine est avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors, on a vu le plan proposé par la Chine, un plan en 12 points. Puis dans le fond, on se dit, mais qu'est-ce que la Chine veut exactement, puis qu'est-ce que la Chine peut faire exactement?
Oui, c'est intéressant. D'ailleurs, le plan qui a été soumis, M. Biden, le président américain, l'a tout de suite rejeté en disant que c'est bien trop en faveur de la Russie et tout ça. Donc, on se demande où s'en va la Chine dans tout ça. La Chine, d'ailleurs, qui va rencontrer le président du Bélarus, M. Loukachenko, qui est un allié numéro un du président Poutine. De l'autre côté, le président Zelensky dit, si vous voulez être équilibré, les Chinois. Moi aussi, je veux rencontrer le président Xi Jinping. Qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là? Et tout ça, la Chine peut-elle jouer un rôle de médiateur quand on pense que, selon, entre autres, le directeur de la CIA, selon Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale américain, les Chinois s'apprêteraient à livrer aux Russes, on en a parlé la semaine dernière, des armes. Entre autres, on parle de drones de combat, une centaine de drones de combat, des armes individuelles, mais aussi des obus, qui est crucial dans les circonstances. Ça serait, aux yeux de Washington et de l'OTAN, une provocation. La Chine prendrait vraiment le côté, mais en fait, les Chinois laissent entendre aussi, regardez-vous à l'OTAN et les pays alliés, vous alimenter la guerre. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit d'aider nos partenaires et nos amis russes? C'est la grande question. Et tout ça se passe, Paul, et ça, c'est intéressant, au moment où l'Europe s'engage dans une deuxième année de guerre. Quand je dis l'Europe s'engage, ça veut dire qu'eux, ils la sentent, la guerre. Ils sont à côté, ils en souffrent. Ils ont des problèmes d'énergie, ils ont des problèmes d'inflation bien plus importants que les nôtres. À cause de ça, ils sont rapprochés du front. Ils ont des réfugiés, hein, des millions de réfugiés. Et tout ça, donc, se passe au moment où l'Europe envisage avec une certaine anxiété là, une prolongation de la guerre. Là, on va voir cette semaine la ville de Bakhmut, là, qui est un centre de combat terrible, va probablement tomber. Les Ukrainiens vont se retirer de ce front-là, peut-être, c'est ce qu'on pense cette semaine. À Berlin, en fin de semaine, il y a eu 10 000 manifestants qui sont allés dans la rue pour dire au gouvernement du chancelier Scholz quoi? Il faut arrêter d'aider l'Ukraine. Il faut favoriser une solution pacifique du conflit. Il faut arrêter d'envenimer le conflit. Alors, on voit dans quel contexte là, tout ça se présente. Il faut dire qu'aux États-Unis aussi, même les républicains commencent à être divisés sur la question d'armer et de continuer à armer l'Ukraine. Et ce qu'on sait et qui est certain, tous les stratèges le disent, si l'Ukraine ne continue pas à être alimentée en armement et en armement plus moderne, elle ne pourra pas durer.
Un dossier intéressant, celui du département américain de l'énergie qui dit on pense que finalement, là, la pandémie qu'on vient de vivre, la COVID, là, c'est malheureusement le point de départ, c'est un laboratoire, puis c'est une erreur de manipulation qui a provoqué la crise mondiale.
Oui, ils disent ça, mais en disant avec une faible certitude.
Oui.
Et on se demande pourquoi, d'ailleurs, j'ai pas trouvé de solution. J'ai vu les rapports du Wall Street Journal et tout ça. Pourquoi c'est le département de l'énergie qui fait cette enquête-là? Mais il faut rappeler que, donc, la pandémie a fait 7 millions de morts et qu'il y a beaucoup de gens, y compris l'Organisation mondiale de la santé, beaucoup de pays dans le monde qui voudraient en savoir plus sur les origines. On sait que ça vient de la Chine. Les Chinois prétendent que c'est une histoire de marché public, d'animaux, le virus viendrait d'animaux qui étaient vendus dans ce marché public de la ville de Wuhan. Et quand on évoque la perspective d'un virus qui se serait échappé échappé, en fait, une fuite provenant d'un laboratoire utilisé principalement par l'armée chinoise, un laboratoire de virologie. Là, les Chinois sont furieux quand on évoque cette possibilité-là.
Est-ce que c'est la peur d'avoir une responsabilité disant, c'est d'un côté, c'est un laboratoire, on l'a mal géré, oui. C'est plus facile de dire, c'est la nature qui
exactement,
fait.
C'est cette réponse. Mais il faut dire aussi que si on faisait, si on admet l'hypothèse de la fuite, c'est que aussi, c'est l'armée, en fait, chinoise qui faisait des expériences sur des coronavirus, sur des types de coronavirus. Et puis, à l'occasion de ça, cette hypothèse-là, elle est là depuis le début. Hein, je m'en souviens. J'étais ici quand, au début, quand la pandémie a été, je suis revenu au Québec pendant un certain temps. J'avais rencontré des biologistes comme à l'Université de Montréal, à l'Université Laval et tout ça, qui disaient que c'est, il y a des manipulations. Hein, on fait des manipulations dans ce genre de laboratoire de virologie. Entre parenthèses, il y en a un à Winnipeg au Canada. C'est extrêmement strict ce qui se passe là-dedans. Et il y a pu y avoir effectivement une fuite. Le problème dans tout ça, c'est que les Chinois, et je me souviens, la docteure Joanne Liu, qu'on connaît bien, qui a été présidente de Médecins sans frontières, elle a fait partie d'une mission de l'Organisation mondiale de la santé en Chine. J'étais là à ce moment-là comme diplomate québécois. Et elle m'avait raconté à quel point la délégation ne pouvait rien voir, même pas le marché qui avait été fermé depuis je sais pas combien de temps, aucun cas, aucun médecin qui avait été impliqué directement dans l'action au début, pas de question, pas de possibilité de question, et encore moins une possibilité de visiter le laboratoire de virologie. Donc, il y a un nuage là-dedans qui, tant qu'il sera pas crevé, ce nuage-là, tant qu'on saura pas ce qui se passe, il va y avoir des questions, et d'ailleurs, même M. Biden a demandé aux agences de sécurité américaines de faire la lutte lumière sur la question, est-ce qu'on saura un jour ce qui s'est vraiment passé? Il faudrait le savoir. Parce que remarquez qu'il y en a eu des épidémies qui sont parties de la Chine depuis quelques années. Hein. Alors, il faut, comme le SRAS, comme toutes ces épidémies-là. Donc, il faut avoir la vérité sur l'origine pour mieux se préparer pour la prochaine fois.
Parlons maintenant de ce déraillement de train incendie des wagons qui transportaient des produits chimiques. Ça s'est passé au début du mois de février, le 3. West Palestine, c'est en Ohio, c'est une petite ville. Et puis là, les gens sont terrifiés parce qu'ils n'ont pas beaucoup confiance dans les informations officielles où on leur dit tout est sous contrôle, tout va bien. Il y a beaucoup de gens inquiets.
Ouais, il y a des gens qui parlent d'un Tchernobyl américain. D'ailleurs, pour l'anecdote, Paul, chaque semaine, j'ai un cours de chinois avec ma prof de chinois qui est à Shanghai. C'est une femme sérieuse, un peu intellectuelle, bien informée, et qui m'a dit la semaine dernière, est-ce que c'est vrai que vous allez avoir un Tchernobyl en Amérique du Nord qui va affecter même le Canada? Est-ce que tu as peur? Alors, ça montre un peu l'état de la rumeur, et c'est ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui. Cette histoire de train, elle s'est produite, cette histoire de déraillement, elle s'est produite le 3 février. Qu'est-ce qu'il y avait le 3 février? C'était la paranoïa du ballon espion. Mmh. Le 4 février, on abat l'avion espion. On parle pas beaucoup du déraillement. Après ça, le 7, on évacue la ville de West Palestine pour provoquer un incendie organisé parce qu'il y a cinq wagons qui contiennent, entre autres, du chlorure de vinyle. Qui commence à chauffer, on a peur à une explosion, donc on fait cet incendie-là. Il y a une immense colonne de fumée noire qu'on voit dans les médias. Il y a des photos où on voit le village, la petite ville en premier plan, puis la colonne de fumée. Donc, panique, hein. Qu'est-ce que c'est que cette fumée-là et tout ça? Je dois dire qu'au même moment, il y a le discours de l'État de l'Union sur l'État de l'Union le 7 février. Monsieur Biden ne fait aucune mention du déraillement et de ce qui se passe là-bas. Mais dans un sens, il a peut-être raison, parce qu'il y a pas de morts, il y a pas de blessés. Il n'y a pas de dommages aux habitations. Pour l'instant, donc, il n'y a pas grand-chose. Mais là, après la fameuse colonne de fumée, on fait revenir les gens dans la ville et là, la clinique de rumeurs commence. Là, tout le monde commence à dire, on voit des poissons morts dans les rivières, on voit, il me semble que l'eau ne goûte plus la même chose. Là, la rumeur s'empare de tout ça et les gens commencent vraiment à paniquer. On dit, par exemple, que des camions sont venus dès le début du déraillement pour apporter des nouveaux rails pour réparer le rail, bien plus que pour aider les gens. Et là, tout arrive à un point culminant quand le président Biden s'en va à Kiev et annonce 500 millions de dollars d'aide supplémentaire aux Ukrainiens. Et là, les médias commencent à dire, c'est ça, on aide les Ukrainiens, mais on n'aide pas les gens de West Palestine. Le maire de la ville dit, c'est ça, on s'en va les aider, mais nous, on fait rien pour nous. Monsieur Biden réagit le lendemain pour la première fois. le 21 février. Donc, ça s'est passé le 3, il réagit pour la première fois le 21. Donc, il y a un défaut aussi de la part de l'administration américaine qui ne réagit pas officiellement, qui va pas sur place. Même le secrétaire au transport se fait reprocher de pas être allé sur place.
Il est allé il y a quelques jours à peine.
Exactement. Hein? Lui, le 21 est obligé de réagir publiquement, s'en va sur place. Fox News dit c'est ça. On sait très bien, c'est des cols blancs, c'est des cols bleus, blancs, américains. C'est la clientèle typique du Parti républicain. Les démocrates s'occupent pas d'eux. On voit le ton qui monte. Qu'est-ce qui arrive le 22 mercredi dernier? Donald Trump, comme par hasard, s'en va là-bas pour distribuer d'ailleurs des casquettes, ces fameuses casquettes rouges, et il dit, nous, on va s'occuper de vous. Là, on dit qu'il est remonté un peu dans la popularité au sein du Parti républicain à cause de ça. Puis on parle de Tchernobyl en Chine, de Tchernobyl en Amérique, de toute cette rumeur-là. Ce qu'il faut dire dans tout ça, c'est que dès le début, le 4 février, le lendemain, alors qu'on abattait le ballon, toutes les agences américaines, comme l'Agence de protection de l'environnement, étaient sur place. Les tests d'eau étaient faits dès ce début-là. La situation a été prise en main dès le début par les agences, quand on voit le détail de ce qui s'est passé. Et le seul problème qui s'est passé tout le long de ça, c'est que, publiquement, le président des États-Unis n'est pas allé sur place. Alors qu'il n'y avait pas de justification pour un président d'y aller, parce qu'il n'y avait pas de mort, il n'y avait rien sur ce plan-là. Et donc, c'est la rumeur qui a fait en sorte que là, même encore aujourd'hui, on parle de toutes sortes de gens dans la petite ville de 4700 personnes qui ont des symptômes, qui se sentent malades, etc. Il y a des médecins, là, tout est fourni, mais par contre, on continue
comme un lien de confiance de brisé.
Exactement.
Les gens sont inquiets.
Il y a un lien de brisé, mais pourtant, tout a été fait. Quand on voit le détail, c'est ça qui est intéressant. Puis, il y a même des gens, comme le directeur le secrétaire au transport, qui a dit, Monsieur Trump, au lieu d'aller là-bas et distribuer des casquettes, est-ce qu'il aurait pu demander aux autorités, à nous, de remettre en place les règles de sécurité que lui-même avait supprimées quand il était au pouvoir? Parce que c'est ça le problème, Paul. Il y a 1000 déraillement de trains aux États-Unis chaque année. Sous le régime Trump, on a supprimé un nombre important de règles touchant le transport ferroviaire. Et des catastrophes comme ça vont de plus en plus se produire si ça continue. Et ce qu'on dit aussi, c'est qu'en fin de semaine, il y a eu, après 20 jours, ça a été très rapide, quand même, le résultat d'une première enquête de la Commission de sécurité dans les transports qui dit la compagnie ferroviaire Norfolk Southern dont le train a eu ce déraillement, est responsable à 100% de la tragédie. Elle aurait pu empêcher le déraillement si le train avait arrêté plus tôt, tranquillement, alors qu'ils savaient qu'ils avaient un problème. Et là, pour l'instant, donc, on en est là. Et toute cette rumeur-là qui s'est emballée, en fait, révèle un problème réel de manque de sécurité dans les transports ferroviaires aux États-Unis.
Merci beaucoup, Jean-François. On se reparle plus tard cette semaine.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Maintenant, nous avons tout un débat de société à Rimouski concernant l'arrosage au printemps, dans quelques semaines, de l'asphalte avec de l'eau potable, de l'entrée de garage. On sait que dans plusieurs villes, Québec, Montréal, il y a des dates très précises. On dit aux gens, OK, c'est correct, là, exemple, fin avril, début mai, vous pouvez utiliser l'eau pour nettoyer votre entrée. Mais là, à Rimouski, on a l'intention d'interdire aux gens, carrément, peu importe la date, là, d'utiliser de l'eau potable pour nettoyer l'entrée. Le maire de Rimouski, Guy Caron, est avec nous. Bonjour, M. Caron.
Bonjour, M. Arcand.
Ça vient d'où cette idée de réglementation qui va être présentée au Conseil?
En fait, ça fait partie d'un ensemble de mesures qu'on adopte présentement cette année pour encadrer la consommation d'eau potable. Dans le passé, on a eu plusieurs problèmes. Je veux dire, dans les 5-6 dernières années, on a eu plusieurs moments où on a eu des sécheresses quand même assez intenses. Et en fait, ça nous a poussé à investir une dizaine de millions de dollars dans une deuxième conduite d'amener. Alors là, pour essayer de commencer à changer les habitudes, on introduit cette mesure, on introduit une taxe sur les piscines, on introduit un tarif également pour l'autorisation d'arrosage des pelouses. Donc, c'est vraiment une série de mesures dont fait partie celui d'interdire d'arroser les entrées d'asphalte.
OK. Actuellement, le règlement dit quoi, Rimouski?
Actuellement, effectivement, comme la plupart des villes, il y a au printemps deux dates, en fait, qui sont fixées. Donc, une date où on peut commencer à le faire et une date où on doit arrêter de le faire.
OK. Et là, ça va être jamais?
effectivement, ça ne sera jamais, sauf dans les cas où, effectivement, il y a des travaux d'aménagement qui se font. Si, par exemple, l'entrée est nouvelle, s'il y a des salons qui sont apposés, donc là, il y aura possibilité, effectivement, de le faire. Mais autrement, uniquement pour la nettoyer au printemps, ça ne sera plus possible.
Est-ce que vous trouvez je reprends ma question. Êtes-vous étonné de la réaction des gens?
Ben, je vous dirais que c'est rare que je le fais maintenant, mais je suis allé faire un tour dans les médias sociaux pour voir la réaction. Puis effectivement, il y a beaucoup de commentaires. Cependant, à ce que je comprends, la pétition elle-même qui sera présentée ce soir, pour l'instant, n'a qu'une quarantaine de noms. Et les commentaires sur les médias sociaux sont largement favorables à la mesure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on arrose son appel d'asphalte avec un boyau régulier, ce qui est généralement le cas, on parle de 15 à 20 litres par minute. Travaux d'arrosage, environ une dizaine de minutes. On parle pratiquement de 200 litres. On a 23 000 unités d'habitation à Rimouski. Faites le calcul si même les deux tiers de ces unités ont des entrées. Ça commence à faire beaucoup. Je vous dirais aussi que, autant j'aimerais vous dire qu'on est les premiers à avoir à penser ça. Il y a déjà, on a fait un recensement, environ 11 municipalités où c'est effectivement le cas qu'il y a une interdiction à l'année longue d'utiliser l'eau potable pour laver son asphalte. Entre autres, à Gatineau, à Drummondville, à Trois-Rivières, à Shawinigan. Ce sont toutes des villes qui ont déjà adopté cette mesure.
Est-ce que, selon ce que vous savez, c'est une pratique répandue d'arroser son asphalte ou si les gens ont... Je vous donne un exemple. Il y a des moyens autres qui existent. Là, ça peut être le balai, ça peut être un appareil qui souffle l'air. Bon. Est-ce que c'est très répandu, le monde qui prenne le boyau comme ça puis qui s'installe puis qui arrose l'asphalte?
Je dirais que des témoignages que j'ai de mes conseillers, effectivement, c'est effectivement très répandu. Puis vous avez raison, effectivement, il y a des possibilités alternatives à laver son asphalte avec l'eau potable qui est traitée par la ville, entre autres le balai, effectivement. On a aussi en fait une campagne pour tenter de demander aux citoyens d'être conscient de leur consommation d'eau, qui s'appelle Vasimolo sur l'eau, dans lequel on a entre autres la possibilité de pouvoir se procurer un baril pour récupérer l'eau de pluie qu'on peut ensuite réutiliser pour laver son asphalte. Donc, il y a des mesures alternatives. Ce qu'on veut faire au bout du compte, c'est dire aux citoyens, l'eau potable, elle est difficile à traiter, elle est chère à traiter, elle est une ressource qui, oui, si on dit que c'est une ressource renouvelable, il reste que le traitement est assez dispendieux. On demande aux gens, par des mesures comme celle-là, de tenter de changer leurs habitudes de consommation.
J'imagine que vous connaissez très bien M. Jean-Claude Roy, qui a l'air d'être un des farouches opposants à ce règlement.
Je connais effectivement M. Roy.
Il dit, je cite, là, je vois ça dans la presse ce matin, qu'il est allé voir les entrées des conseillers municipaux sur Google Maps et qu'il trouve que finalement, je ne sais pas si vous êtes inclus là-dedans, mais que c'est pas très bien entretenu, que ça fait dur un peu et que ça fait négliger.
Ben, je vous dirais que de mon côté, j'ai pas peur de dire que j'ai une entrée en gravier. Alors, ça s'applique pas à moi. Je connais pas la situation des autres conseillers et conseillères, mais au-delà d'une question d'apparence, je vous dirais que si on peut nettoyer son entrée avec un balai, par la suite, on laisse la pluie faire son travail, c'est tout à fait possible d'avoir une entrée qui soit très, très esthétique. Mais au bout du compte, on parle d'une autre situation qui est celle de changer nos habitudes de consommation. Pour l'eau potable, hein, encore une fois, la lumière du fait que... Écoutez, dans les périodes de pointe à Rimouski, il était estimé pour une ville de 50 000 habitants qu'on consommait l'eau à la vitesse ou au rythme d'une ville de 120 000 habitants. Alors, à un moment donné, on a comme une réflexion à faire, à savoir de quelle manière on peut adresser la situation. On le fait en amenant une deuxième conduite d'amener qui va nous donner un système de redondance, mais au-delà de ça, il faut commencer à changer les habitudes. C'est pas parce qu'on va avoir une deuxième capacité pour pouvoir produire et traiter l'eau potable qu'on n'a pas besoin dès maintenant de changer nos habitudes. Alors, c'est ce que j'encourage les citoyens et citoyennes à faire.
Merci, M. Caron. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Au revoir. Guy Caron est le maire de Rimouski.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.